Chapitre 5. Histoire de presse. Le lendemain et les jours suivants, le temps s'était mis à la pluie. Les rhumatismes du vieux Robson s'en trouvaient fort aggravés, et le digne fermier, retenu dans sa demeure, s'y ennuyait à cœur joie. Sa femme, réduite comme Madame de Maintenon, et sans autant de ressources que celle-ci, à divertir de son mieux un homme qui n'était plus amusable, recourut dans sa détresse au conseil de Sylvia. « Si du moins, lui disait-elle, Philip Hepburn pouvait revenir. » Mais Sylvia repoussait comme absurde l'idée que Philip pût servir de passe-temps à quelqu'un. Et quand là-dessus elle vit sa mère toute prête à se fâcher, « J'ai un autre remède, lui dit-elle, et bien plus certain. » Après quoi, jetant sur sa tête son tablier bleu, elle courut vers la grange où Kester, le garçon de ferme, examinait les toisons qu'on allait préparer pour la filature. L'apparition du joli minois de Sylvia, que ce capuchon improvisé semblait embellir encore, fit épanouir un large sourire sur l'épais visage du fidèle serviteur, épris peut-être de sa jeune maîtresse, mais si secrètement que lui-même ne s'en doutait pas. Elle avait, disait-elle, un message à lui confier, message qui demandait beaucoup de ménagement et de diplomatie. Il ne s'agissait de rien moins que de déterminer Maître Bullfinch, le tailleur, à venir sans faire semblant de rien, s'enquérir des réparations qu'exigeaient les vêtements du fermier. On s'arrangerait pour qu'il trouvât bonne quantité d'ouvrage. Cet ouvrage le retiendrait à la ferme. Et Robson aurait ainsi, pour toute la durée du mauvais temps, un interlocuteur assuré dont le bavardage n'était pas sujet à s'épuiser facilement. Kester entra joyeusement dans le complot, enthousiasmé de quelques incitations caressantes qui, dans la bouche de Sylvia, équivalaient aux ordres les plus péremptoires. Mais comme la diplomatie n'était guère son fait, il la remplaça par un beau shilling, dont il fit généreusement le sacrifice muet et qui eut sur Bullfinch une influence au moins égale à celle des insinuations les mieux ménagées. Dès le lendemain, comme par hasard, le tailleur apparaissait au seuil de la ferme de Haytersbank. Et comme par hasard aussi, Belle et Sylvia découvraient une foule d'accrocs à fermer, de boutons à remettre, qui nécessitaient son installation régulière dans leur petit établissement. Une fois l'ouvrage en bon ordre, les fers au feu et la fille de la maison appelée à lui prêter aide et secours, le tailleur entra de plein pied dans ses commérages habituels. L'émeute de Monkshaven en fit d'abord tous les frais, mais elle avait été suivie d'un incident assez grave que les gens de la ferme ignoraient encore, et que le lecteur apprendra dans les mêmes termes où il leur fut conté. « Oui, disait le tailleur, il a fait des siennes, le vaisseau du roi, et qui s'en serait douté? Il était depuis longtemps si tranquille. Le lieutenant soldait si bien tous ses achats, mais vous avez su, n'est-il pas vrai comment il est allé prendre à bord de la Résolution les quatre plus beaux marins à qui j'ai jamais taillé une paire de culottes? Cela se passait jeudi dernier, et tout Monkshaven était en l'air. Vous auriez dit un nid de guêpes volant de ça de là, et bourdonnant à qui mieux mieux. Sans compter que beaucoup avaient leur aiguillon tout prêt et ne demandaient qu'à se venger. Il fallait entendre les femmes pleurer et sangloter dans les rues. Il fallait voir, pendant toute la journée du vendredi, celles qui restaient sous la pluie, tout le long des quais, s'écarquillant les yeux à regarder du côté de la pointe Saint-Abe. C'était là qu'on avait signalé, le jeudi, l'arrivée de la Good Fortune. On l'attendit en vain toute la journée. La marée de l'après-midi passa, et de ce malheureux bâtiment, on n'avait pas vu la moindre ficelle. Se tenait-il hors de vue? Crainte du Tender? Avait-il décidément pris le large? C'était ce que se demandaient les pauvres femmes en rentrant chez elles, mouillées jusqu'aux os, sans regarder personne, sans parler à personne, et tâchant de se donner courage pour la nuit d'angoisse qu'elles allaient passer. Le samedi matin, vous vous rappelez l'orage qu'il faisait, cette pluie, ce vent terrible. On se remit au guet dès l'aurore, et cette fois, la Good Fortune franchit la barre. Mais on avait déjà de ces nouvelles par la chaloupe de la douane. La croisière avait été bonne. Nos gens rapportaient quantité d'huile et de gras. Malgré cela, ils avaient à mi-mât leur pavillon trempé de pluie, en signe de chagrin et de détresse. C'est qu'il y avait à bord un homme tué. Un homme qui, le matin même, s'était levé frais et dispos. Il y en avait un autre, dont la vie ne tenait plus qu'à un fil. Et enfin, l'équipage en avait vu partir sept, qui aurait dû se trouver là, mais que la Press Gang avait enlevé. Le Tender, à qui était due la capture du jeudi, avait fait passer un avis à la frégate dont on a tant parlé, celle qui stationne devant Hartlepool, et l'Aurora s'était hâtée de mettre à la voile dans la direction du nord. La résolution était, paraît-il, à 9 lieues au large de la pointe Saint-Abe, quand elle vit la frégate et la reconnaissance à coupe pour un bâtiment de guerre, devina de quelle mission elle était chargée. « J'ai vu, vous dis-je, j'ai vu de mes yeux l'homme blessé. Mais soyez tranquille, celui-là vivra. Jamais on n'est mort avec un pareil désir de vengeance. » Il pâlissait, il rougissait à chaque instant, ne pouvant parler à cause de sa blessure qui est mauvaise, pendant que le capitaine et le contremaître nous racontaient, à moi et à quelques autres, comment l'Aurora leur avait envoyé des boulets, sans plus se gêner, pour les faire amener sur elle. Mais comme ils savaient avoir affaire à un vieux renard et mal disposé, ce blessé dont je parle, Kinred, le spectionnaire du navire, fit descendre les hommes dans l'entrepont et fermer strictement les écoutilles, pendant qu'ils restaient sur le pont avec le capitaine et le vieux contremaître, pour faire accueil à l'équipage de la chaloupe qu'ils pouvaient voir, se détachant des flancs de l'Aurora, nager vers eux avec ses grands coups d'aviron bien réguliers auxquels se reconnaît le marin de l'État. « Malédiction !» s'écria ici Daniel, se parlant à lui-même et entre ses dents. Sylvia était debout, son fer à repasser dans les mains, passionnément attentive, et ne voulant ni donner le fer à Bullfinch, pour ne pas interrompre le récit, ni le remettre au feu, de peur que ce mouvement ne fît songer le tailleur au travail qu'il venait d'oublier complètement, emporté lui-même par l'ardeur de sa narration. Ils arrivaient donc sur l'eau, à grands coups de rame, et tombèrent à bord comme des sauterelles, tous armés jusqu'aux dents. Le capitaine raconte qu'il avait vu Kinred glisser, sous quelques prélards, son couteau de pêche, et que, tout en lui supposant d'assez funestes intentions, il ne songea pas un moment à l'empêcher de dépecer quelques-uns de ses drôles, pas plus que s'il se fût agi d'un cachalot. Nos gens à bord, l'un d'eux court au gouvernail, et le capitaine affirme qu'il aurait autant aimé voir quelqu'un embrasser sa femme devant lui. Mais, ajoutait-il, le souvenir des gens de Monkshaven, qui en ce moment même devaient être à nous attendre, et le couteau de pêche que je voyais reluire, ça et là, sous sa noire enveloppe de toile à goudron, me décidèrent à rester poli aussi longtemps que je le pourrais. Ainsi fit-il, tout en voyant qu'on les dirigeait du côté de l'Aurora et que l'Aurora venait à eux. Or voilà le capitaine de l'État qui empoigne sa trompette pour les héler. « Tous vos hommes sur le pont » criait-il, impérieux et brutal. Du fond des écoutilles, cependant, on entendait les baleiniers jurer qu'ils ne se rendraient pas sans qu'il y ait eu du sang versé. Kinred, d'ailleurs, avait pris son pistolet, dont il examinait l'amorce avec le plus grand soin. Le voilà qui dit au capitaine de l'État. « Nous sommes pêcheurs du Groenland, protégés par le statut maritime. Vous n'avez aucun droit sur nous. » Mais l'autre lui répond, toujours criant. « Vos hommes sur le pont, et pas de réplique !»« S'ils ne veulent pas vous obéir, et si votre autorité n'est plus reconnue à votre bord, je vous regarde comme en état de révolte. Venez alors me trouver avec ceux qui voudront vous suivre. » Et les autres apprendront de quel bois je me chauffe. Vous voyez d'ici la ruse. Il feignait de croire que l'autre capitaine avait affaire à des mutins et semblait lui venir charitablement en aide. Mais ce dernier ne voulait pas donner dans le panneau. Et vous, lui répond tout bonnement. Mon navire est chargé d'huile, et si le bois dont vous vous chauffez y met le feu, vous en supporterez naturellement les conséquences. A-t-il ou non parlé aussi hardiment qu'il l'assure, je ne le garantis pas, mais s'il n'a pas dit tout ce qu'il avait sur le cœur, c'est prudence pure, et afin de ramener sa cargaison saine et sauve. Là-dessus, les gens de l'Aurora qui étaient à bord de la Good Fortune proposent à leur capitaine de faire feu par les écoutilles, et de forcer ainsi les hommes à monter. Mais voilà le spectionnaire qui prend la parole. Il défendra, dit-il, les écoutilles. Il a 2 bons pistolets et quelque chose avec. Pour sa vie, il n'y tient guère, n'étant pas encore marié. Tous ceux d'en bas le sont, et malheur aux 2 premiers qui se risqueront près des écoutilles. En effet, il tire sur les 2 plus avancés, que sa menace n'avait pas arrêté, et juste au moment où il se penchait pour saisir le couteau de pêche, qui est une grande espèce de faucille. « Apprenez-moi donc ce que c'est qu'un couteau de pêche !» interrompit Daniel. « Comme si je n'étais pas allé au Groenland, moi aussi !» Il lui traverse le côté d'une balle, le couche par terre tout étourdi, et l'écarte à coups de pied comme un cadavre. Puis, ils font feu par les écoutilles, tuent un matelot, en blessent 2, et le reste alors demande quartier, car, Enfin, la vie a ses douceurs, même à bord d'un vaisseau du roi. C'est ainsi que l'Aurora les a tous pris, les blessés comme les bien portants, laissant seulement Kinred qu'on croyait mort et qui ne l'était pas, Derlec qui l'était au contraire à merveille, et le capitaine et le contremaître, tous deux trop âgés pour faire grande besogne. Le premier des deux, affectionné à Kinred, comme s'il était son frère, bande soigneusement sa blessure, lui fait avaler deux ou trois gorgées de rhum, et une fois arrivé à Monkshavern, mande le premier docteur de la ville, car on dit qu'il n'y a pas dans toutes les mers du Groenland un harponneur comme celui-là. Quant à moi, je puis porter témoignage que c'est un beau jeune homme, tout blême et tout épuisé de sang que je l'ai vu. Pour ce qui est de Derley, il ne ressuscitera pas, je vous en réponds, et dimanche venu, on verra passer dans les rues de Monkshaven un enterrement comme il n'y en a pas eu depuis longtemps. À présent, jeune fille, passez-moi mon fer, et ne perdons plus le temps à bavarder.
Ce n'est pas là perdre son temps, dit Daniel, se remuant avec peine dans son fauteuil, comme pour constater une fois de plus l'infirmité qui les retenait.
Si j'étais jeune comme autrefois, et même si ces damnés rhumatismes ne me clouaient ici maintenant, les gens de la Press Gang verraient bien ce que peuvent coûter pareilles infamies. Mais mon brave, c'est pire que pendant ma jeunesse, du temps de la guerre d'Amérique, où pourtant les choses n'allaient pas trop bien.
« Et Kinred ?» demanda Sylvia, qui, depuis quelques minutes, absorbée par l'intérêt puissant du récit, semblait avoir perdu la respiration. Ses joues étaient pourpres, et ses yeux étincelaient.
« Oh, rassurez-vous, il n'en mourra pas. Il y a de la vie dans ce gaillard-là. »«
Ce doit être le cousin de Molly, »
ajouta Sylvia, se rappelant, avec une rougeur nouvelle, ce que Miss Corney lui avait dit à propos de ce cousin. Et à partir de ce moment, son petit cœur ne songea plus qu'à tirer de son ami tous les détails confidentiels dans lesquels entrent volontiers les jeunes filles qu'on fait jaser sur le compte de leur fiancé. Mais il ne faudrait pas croire qu'elle s'avoua ce désir secret, même dans l'intimité de sa conscience. Elles se bornèrent à souhaiter ardemment de revoir Molly pour la consulter, se disait-elle, sur la coupe de son manteau neuf.